Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippie-ki-yay, pauvre con.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin durant laquelle nous reviendrons sur Itch, Hurrah, Hitchcock par Hitchcock, volume 3, paru chez Marest, éditeur. Nous reviendrons également en compagnie de son auteur sur Le syndrome de l'île déserte, 50 films incontournables, paru aux éditions Complicité. Et l'auteur, c'est Dominique Legrand, bien sûr, que nous sommes ravis d'accueillir pour ce nouvel ouvrage. Nous parlerons également en compagnie d'un de ses co-auteurs du livre John McTiernan, Cinéma Total. C'est paru chez Le Feu Sacré Édition. Et le co-auteur qui nous accompagnera durant un entretien passionnant, c'est Yal Sada. Nous aborderons également deux sorties Carlotta Film, deux livres, Le chemin du paradis, une épopée de Francis Ford Coppola de Sam Wasson et 30 ans d'étrange festival. Alors là, il n'y a pas vraiment d'auteur, c'est un livre collectif, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Il y a pléthore d'auteurs, dont certains prestigieux, voilà. Et enfin, nous aborderons un film en lien avec la littérature, aussi bien par son réalisateur, parce qu'il est un auteur de très bons romans noirs, que de par son acteur et personnage principal, puisque le film c'est Dans la peau de Blanche Houellebecq de Guillaume Nicloux, sorti chez Blackout, avec, devinez qui, Michel Houellebecq. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier, Sandrine Hiver, Steven Lambert et Pierre-Julien Marest pour leur aide sur cette émission. Itch, Hurrah, Hitchcock par Hitchcock, volume 3 qui vient de paraître chez Marest éditeur, est un vrai bonheur pour cinéphiles. Alors si le livre s'appelle Itch, Hurrah, c'est en référence au titre d'un entretien qu'il a donné, qui est reproduit d'ailleurs dans l'ouvrage. Alors là, c'est un recueil de textes dont certains sont signés Hitchcock, d'autres ce sont des entretiens avec Hitchcock. Je tiens à dire d'ailleurs qu'Hitchcock, qui est quelque part un peu pour moi l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, était même un visionnaire, puisqu'en page 191, à une journaliste de la Revue du Cinéma, donc dans un entretien qui était publié en juillet 73, dans le numéro 164, qui lui demande une interprétation de son film Les Oiseaux. Voici ce qu'il répond. « J'ai voulu dire que si l'homme ne se conduit pas bien à l'égard de la nature se retournera contre lui. » Voilà, il avait déjà tout compris, l'ami Alfred, bon, même si on commençait déjà à cette époque-là, à voir les dégâts que pouvait produire le fait de ne pas respecter la nature et l'environnement. Alors, ce troisième et dernier tome, alors, c'est toute une collection de Hitchcock par Hitchcock qui est paru chez Marest Éditeur. Alors, je les ai tous, donc je vais passer très bon moment. Il y a aussi un autre bouquin à part qui est paru chez Marest Éditeur. Ça date d'il y a quelques années, mais c'est un entretien entre Hitchcock et Andy Warhol. Un entretien mené par Andy Warhol. Qui est aussi assez intéressant. Alors, il y a pas mal de choses. Il y a des petits textes. Il y a des échanges qui sont très drôles avec Nabokov, des échanges de courriers. En fait, chacun reste sur sa position. C'est très drôle. Chacun raconte ce qu'il veut faire. Mais en fait, ce n'est pas du tout une collaboration. C'est un dialogue de sourds. C'est très, très drôle. Il y a bien sûr, des interviews avec Chabrol, Romère, avec Truffaut, enfin ça. Mais ce sont des inédits, hein, pour la plupart. Hein, c'est des choses qu'on n'a pas lues. Il y a un texte d'Hitchcock sur le visage des actrices de son époque qui est assez étonnant, en fait, et en particulier où il s'érige contre les beautés fatales qui étaient Garbo, par exemple, et Dietrich. Et c'est des physiques de cinéma qui ne lui plaisent pas. Il dit que ce sont des belles femmes, mais ce ne sont pas des physiques qui lui plaisent pour son cinéma. Mais le texte, qui est le texte majeur, hein, de ce volume, de ce troisième volume, et dernier volume, annoncé comme dernier volume de cette recension de textes et entretiens d'Hitchcock par l'éditeur, Marest Éditeur, c'est un échange entre Tippi Hedren et Hitchcock, au moment de travailler le rôle qu'elle doit faire pour Pas de printemps pour Marnie. Et on découvre un Hitchcock qui, on voit bien qu'il ne considère pas en fait les acteurs comme du bétail, contrairement à ce qu'il dit d'ailleurs, hein, parce que ça, il le dit, il le redit souvent. Voilà. Donc, et on voit bien que dans la préparation du film, en fait, bah, c'est ce qu'il disait toujours Hitchcock, une fois que le film est préparé, il est fini. Bah, là, c'est clairement ça. Je veux dire, le film, il est fini. Une fois que la discussion entre Tippi Hedren et lui est finie, Tippi Hedren sait parfaitement ce qu'elle doit faire. Et puis bon, je ne résiste pas aussi parce que Hitchcock, c'est aussi quelqu'un qui a de l'humour et quelqu'un qui peut être grivois. Donc il y a toute une partie, il y a des textes qu'il a écrits, on est en pleine guerre froide, hein, comment faire vaciller le Kremlin. Donc il y a une partie, par exemple, où il explique que chaque nuit, il faut que quelqu'un s'introduise pour faire bouger le mausolée de manière à faire flipper les soviétiques de peur que ressuscite Staline pour venir se venger. Et puis il y a aussi un moment où il explique sinon il faut faire passer un avion et puis mettre les musiques d'Elvis Presley à fond, quoi, pour faire flipper les soviétiques. C'est assez drôle. Et puis bon, il y a beaucoup d'histoires de braguettes, enfin il y en a deux, et il y en a une, il raconte ce qui est arrivé à un scénariste qui lui est proche, un ami à lui, qui est allé chez un autre dramaturge, en fait, et ils devaient travailler ensemble sur une pièce, et cet autre dramaturge était complètement nu, en fait, quand il l'a reçu. Alors il explique que son ami s'assoit et avec l'autre qui est tout nu, et puis ils travaillent ensemble, ils font leur boulot, tout ça, puis une fois qu'ils ont travaillé, qu'ils ont passé quelques temps ensemble, son ami prend congé, hein, de cet homme tout nu, hein, de ce dramaturge, je vous laisse découvrir les noms en lisant le bouquin, et avant de partir, il lui dit « Oh, j'ai oublié de vous dire une chose, je crois que votre braguette est ouverte. » Voilà, je trouvais ça très drôle, tellement hitchcockien, tellement à l'image de ce réalisateur hors norme. Donc ça s'appelle Hitchcock par Hitchcock, Hitch, Oura, c'est paru chez Marest Éditeur. Et c'est bien évidemment totalement indispensable. Après Hitchcock, alors on va parler de plein de cinéastes, se tourner vers un livre quelque chose à laquelle on a tous pensé, en fait, pour répondre à une question qui en fait est complètement idiote, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on emporterait sur une île déserte? On emporterait surtout de quoi vivre, de quoi survivre. Et je ne pense pas qu'on partirait avec 50 films. Mais ce n'est pas grave, c'est l'idée du bouquin de Dominique Legrand, Le syndrome de l'île déserte, 50 films incontournables, qui est paru aux éditions Complicité. Livre assez chouette. Alors, il est assez chouette aussi parce que maintenant que j'ai lu plusieurs livres de Dominique Legrand, il se crée un rapport avec son lecteur, en fait, parce qu'il y a quelque chose d'autobiographique. Ce qu'il nous raconte plus que d'avoir sélectionné 50 films, c'est pourquoi il aime ses 50 films. Ils interviennent à quel moment dans sa vie? Parce que comme tout cinéphile, il dit quelque chose de très juste, c'est quand on a vu des films marquants, on se rappelle quand on les a vus, où, quand, pourquoi, voilà, à quelle occasion. Bon. Et il raconte tout ça, il raconte sa cinéphilie. Donc en creux se dessine un tout petit côté biographique, quoi, voilà, autobiographique, qui est assez attachant, puisque les cinéphiles sont effectivement très souvent, autour du film, très attachés à l'époque à laquelle ils l'ont vu, à tout ça. Enfin bon, bref, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du livre, qui est un livre très ludique, très agréable. Et ce que je vous propose, c'est tout de suite qu'on se connecte avec notre ami Dominique Legrand, donc auteur de Le syndrome de l'île déserte, 50 films incontournables. Intouchable, publié aux éditions Complicité, donc Dominique Legrand au micro de Culture Prohibée. Bonjour Dominique Legrand.
Bonjour Jérôme.
Alors, tu es un habitué de l'émission, donc on se tutoie. Hein.
Oui.
On peut, voilà, depuis des années qu'on se connaît maintenant. Mais là, ton livre, ton dernier livre, donc Le syndrome de l'île déserte, 50 films incontournables, est dédicacé à Michel Simon. Alors, quelle importance il avait pour toi, enfin, il a pour toi, Michel Simon?
Alors, parce que je pense que c'est un de nos grands critiques. Les dernières années, bon, il n'y a pas eu que lui. Hein. J'aurais pu le dédicacer aussi à Serge Danet, par exemple. Michel Simon, parce que j'ai une petite relation particulière avec lui. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Alors, pour l'anecdote, quand j'ai publié mon premier livre, qui était d'ailleurs mon tout premier livre, qui était sur Brian De Palma, c'était à la fois mon premier livre et mon premier ouvrage de cinéma. Donc je publie le livre se vend bien, en plus c'était le premier livre à l'époque sur Brian De Palma, il n'y avait jamais rien eu, il y a eu beaucoup d'entretiens, il y avait eu plusieurs articles, mais pas vraiment d'ouvrage sur lui. Et puis le livre sort, et puis quelques temps après, l'éditeur m'appelle en disant « Écoutez, je suis un peu embêté, j'ai reçu un coup de fil de Michel Simon, donc bien sûr qui était directeur de Positif à l'époque, un rédacteur en chef, et il me dit il est fou furieux parce qu'il est très très mécontent, j'ai une mince, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait ?» En fait, ce que j'avais pas fait à l'époque, je n'avais pas cité Positif, qui avait fait beaucoup d'entretiens, qui avait fait quelques entretiens avec De Palma, qui avait beaucoup parlé de Palma. Donc on s'est revu après avec Michel Simon, et puis voilà, je me suis confondu en excuses, hein, en disant voilà, je suis désolé, c'est vrai que je vous avais un peu oublié, tout ça. Et en fait, il m'en a pas tenu aux rigueurs du tout, il était plutôt sympa. Et quand j'ai sorti le deuxième livre aux éditions du Cerf, dans la collection 7e art qui était sur David Fincher, j'ai eu un gros problème de photos à l'époque que je n'avais pas eu sur le De Palma. À l'époque, sur le De Palma, j'avais pu insérer à l'intérieur du livre pas mal de photos. Et puis la politique avait changé entre le De Palma et le Fincher. Si bien que la directrice de collection à l'époque était un petit peu frileuse pour mettre des photos parce qu'ils avaient eu un problème avec un photographe. Ils avaient publié une photo de plateau et sans payer les droits. Donc ça s'est terminé un peu par un peu une attaque du journaliste, enfin du photographe. Donc du coup, ils étaient très frileux, ils ne voulaient plus du tout faire de photos. Et en laissant quand même une photo en couverture et puis trois photos en quatrième de couverture. Et puis j'étais embêté parce que je me disais, c'est dommage, c'est un livre de cinéma sur Fincher. En plus, c'est dommage qu'il n'y ait pas de photo à l'intérieur. Et puis du coup, j'étais quand même parti chez Positif acheter des photos, acheter des droits des photos. Eux vendaient des photos de films, on pouvait se les procurer, donc j'avais acheté une photo pour la couverture et puis trois photos pour la quatrième. Et puis peu de temps après, un soir, Michel Simon m'appelle en me disant bah, écoutez, parce que quand j'étais parti chez Positif, à l'époque il n'était pas là, enfin, il était absent ce jour-là. Et puis il m'a appelé quelques jours après en me disant bah, écoutez, je suis désolé, j'ai appris que vous étiez venu, que vous aviez un problème de photo et tout ça, mais écoutez, on peut peut-être essayer de le régler. Et il m'avait dit très gentiment, écoutez, je peux vous prêter des photos. Et puis, vous savez, il disait, nous, à Positif, on ne s'est jamais posé la question si on devait mettre des photos ou pas. Voilà, sinon, notre vue n'aurait jamais existé. Voilà. Donc, il m'avait rassuré, il avait été très, très sympa. Et voilà, donc ça, c'était pour l'anecdote. Or, anecdote, je pense que c'est un des très, très grands critiques que la France ait connu ces dernières années. C'est vrai que le fait qu'il ne soit plus là a engendré un peu un vide, hein, dans la critique. C'est surtout un bon analyste. Il avait écrit, bon, bien sûr, de formidables livres, hein, sur le cinéma. Ses livres sont devenus des références. Hein, son livre sur Kubrick, bien sûr, sur Borman, sur Rosie, sur Lozay, sur Kazan. Bon, il a écrit sur énormément de bons réalisateurs, de grands réalisateurs. Positif et une revue magnifique avec des articles de fond, des dossiers vraiment importants. Et puis je pense que c'était vraiment un critique qui a surtout rencontré les réalisateurs, qui est allé au-devant des réalisateurs, qui était, c'était le seul critique d'ailleurs français que Kubrick avait admis un peu dans son cénacle. Voilà, donc c'était vraiment, je pense, c'était vraiment une figure de proue de la critique française. Et je pense qu'il manque cruellement aujourd'hui. Voilà, c'est un peu pour ça que je lui ai dédié.
Alors, ce livre, Le syndrome de l'île déserte, hein, donc, consiste en un choix de 50 films incontournables, comme l'indique le titre. D'où te vient l'idée du livre, en fait, en vérité ?
Alors, l'idée du livre, en fait, c'est assez ludique, hein, comme idée. Voilà, j'étais sorti de ces livres sur Michael Douglas, et puis je me disais, bon, voilà, que faire? Bon, j'avais des idées de romans, je travaillais sur des romans à l'époque, et puis j'avais quelques idées j'étais en train de chercher des idées de livres de cinéma sur un metteur en scène, sur un acteur ou sur un courant cinématographique. J'avais pas d'idée très très précise, et en fait l'idée elle m'est venue, je l'explique un petit peu d'ailleurs je crois dans le livre, en me postant devant ma collection de DVD, et puis en regardant mes DVD en disant tiens, ah ben ça c'est pas mal, ça c'est important. Et puis voilà, l'idée m'a traversée, mais c'est pas une idée récente, elle a traversé pas mal de personnes, c'est de faire des listes comme ça, de romans, de tableaux, voilà, incontournables, qu'on sauverait finalement sur une île déserte, bon bien sûr, en imaginant qu'on puisse regarder un DVD sur une île déserte. Bon, voilà, ça fait un effort d'imagination. Mais voilà, qu'est-ce qu'on emporterait sur une île déserte ? Quels seraient les... Alors, au départ, j'étais parti sur 100 livres, sur 100 films, pardon. Et puis après, je me suis aperçu que, bon, 100, c'était peut-être... voilà, ça faisait beaucoup. Et j'avais peur que l'exercice soit un peu répétitif. J'ai essayé de l'éviter sur 50 livres, je sais pas, sur 50 films, je sais pas si j'aurais réussi à l'éviter sur 50 de plus. Donc, ça risquait d'être un petit peu répétitif, c'est pour ça que je me suis cantonné plutôt à 50, bon, ça faisait un peu top 50, c'était assez marrant. En me lançant, en fait, à un autre défi, c'était de les classer par ordre du moins important, si on peut dire, à celui qui est tout en haut dans le Panthéon. Et puis l'autre défi qui était beaucoup plus compliqué, c'était en fait de ne choisir qu'un film par réalisateur. Parce que voilà, il y a des réalisateurs incontournables que j'affectionne et pour lesquels j'aime plusieurs films. Et là, je devais en choisir qu'un. Donc ça, c'était le défi supplémentaire. Voilà. Mais l'idée est partie de ça, en fait.
Écoutez Dominique Legrand, auteur de Le syndrome de l'île déserte, 50 films incontournables parus aux éditions Complicité, au micro de Culture Prohibée. Dans le début du livre, là, où tu expliques effectivement un peu l'idée de la démarche, mais tu dis aussi quelque chose qui est assez juste. Alors tu dis plusieurs choses. Le cinéphile est par nature quelqu'un de nostalgique, tout au moins de mélancolique, et tu expliques aussi ce qui est très juste, qu'un cinéphile se rappelle comment il a vu chaque film important, chaque film qui a compté dans sa vie. Je trouve qu'en creux, en fait, dans tes livres, il y a toujours un petit aspect autobiographique, en fait, se dessine tu expliques en gros aussi ton rapport au cinéma, c'est personnel, affectif, c'est pas la première fois que tu fais ça, puisque une fois tu avais expliqué comment, dans un bouquin précédent, comment tu avais vu tel film sur un écran de télé, à tel moment, enfin c'est quelque chose qui revient souvent dans tes livres.
Oui, en fait, je me suis aperçu, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, Le syndrome de l'île déserte, mais c'est tout à fait judicieux ce que tu dis, que en fait, je suis persuadé, mais ça maintenant, j'en suis intimement persuadé, que la cinéphilie a à voir avec la nostalgie, pour ne pas dire même la mélancolie. C'est-à-dire que je pense que le cinéphile est quelqu'un qui se réfère toujours forcément au film qu'il connaît, au film qu'il a vu, mais au film qu'il a découvert, souvent relativement jeune, et surtout le ramène à sa propre enfance ou à sa propre jeunesse. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que les cinéphiles sont des gens qui sont très attachés à une période de film, qui ont du mal parfois à s'intéresser aux films d'aujourd'hui, aux films contemporains, aux films qui sortent toutes les semaines, et qui ne cessent de retourner finalement dans ce territoire du passé pour revisiter à la fois leur propre cinéphilie, donc de revoir éternellement les mêmes films. C'est presque pathologique hein, parfois, et en même temps ça permet de revisiter sa propre enfance ou sa propre jeunesse, et de retourner dans le passé à chaque fois. Donc ça j'en suis vraiment persuadé hein.
Moi, on veut pas revenir sur les 50 choix du livre hein, mais moi ce que j'aime bien dans ton livre, c'est que tu assumes une cinéphilie qui est une cinéphilie parfois avec des réalisateurs qui sont mal aimés. Moi j'aime beaucoup voir dans ton livre le fait que tu débutes par Joël Schumacher avec Chute libre. Mm-hmm. Moi, les deux films dont on va parler, c'est des films que j'aime beaucoup. Mais il faut reconnaître que Joël Schumacher, comme Adrian Lyne d'ailleurs, dont le meilleur film, et c'est vrai, effectivement, et un très bon film, c'est L'échelle de Jacob, mais dont sont des cinéastes qui sont généralement un peu répudiés par la critique. Chute libre a eu un... parce que L'échelle de Jacob a eu une bonne critique, mais Chute libre a eu un accueil critique désastreux. Enfin, voilà.
Tout à fait. Tout à fait, oui, c'est vraiment 50 films. Alors, incontournable pour moi, enfin, c'est le terme un petit peu grandiloquent, incontournable, mais c'est vraiment 50 choix très très personnels. C'est-à-dire, j'aurais pu faire effectivement les 50 films les plus incontournables de l'histoire du cinéma. Bon, mais bien sûr que dedans, on aurait eu un John Ford, on aurait eu forcément Citizen Kane, on aurait eu peut-être Frankenstein de James Whale, on aurait eu, on aurait eu des films réputés classiques, chefs-d'œuvre, il y aurait eu Vertigo, voilà. Mais c'est vrai que dans les 50... Alors, il y a aussi des films comme ça. Bon, il y a Psychose, par exemple, où il y a peut-être Mort à Venise, mais peut-être que dans d'autres, on aurait choisi Le Guépard de Visconti, par exemple. Donc il y a des choix un petit peu décalés chez un metteur en scène. J'ai pris Antonioni, j'ai pris Identification d'une femme. Peut-être qu'on aurait pris La Ventura ou Blow Up. Mais c'est vrai que dans ces 50 films, il y a des choix qui peuvent paraître un petit peu étranges. Par exemple, Big Ass Luna, Angoisse. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Chute libre, oui, c'est un choix complètement assumé. Hein. C'est vrai que c'est un film qu'on peut considérer comme radical. Bon, c'est vrai que Schumacher n'a pas toujours eu une bonne réputation. Hein. C'est un réalisateur qui à la fois a fait de bons films, et Chute libre est peut-être un de ses meilleurs. Mais il a aussi fait des films désastreux. Bon, on passera sur ces deux Batman qui sont vraiment oubliables. C'est vraiment une cinématographie, une filmographie qui est un petit peu bancale. Bon, celle de Schumacher, Adrian Lyne, c'est pareil. Hein, c'est vrai que L'échec de Jacob, pour moi, c'est vraiment un classique. On en a fait un remake d'ailleurs qui était complètement oubliable aujourd'hui. Comme quoi, aujourd'hui, son film à lui reste un film important, mais le reste de sa filmographie est discutable, hein, c'est sûr.
Alors après, bon, je vais pas révéler tout ce qu'il y a dans le livre, mais il y a que tu nous réserves quand même une surprise, surtout quand on te connaît bien, quand on a lu tes précédents ouvrages. Alors je vais révéler quand même un truc qui m'a surpris.
Oui.
C'est que alors. Moi aussi, c'est mon film préféré de Polanski. C'est pas souvent celui qui est cité. Donc là, je partage Le Locataire. J'adore ce film. Ce film a rendu fou, je pense. Et pas que moi, visiblement, toi aussi. Mais il est pas premier, Polanski. Alors là, tu m'as épaté. Non. Et je révèle pas où il est dans le classement et tout. Mais là, tu m'as épaté quand même. Ça a dû être un sacré dilemme pour toi quand même.
Alors, ça a dû être un sacré dilemme, mais j'ai toujours su que par rapport au premier, il serait deuxième. Voilà, parce que c'est vrai que je donne beaucoup plus d'importance aux réalisateurs qui arrivent premier. Bon, alors après, le choix de Polanski, c'est vrai que Le Locataire, je savais au départ, déjà, premièrement, je savais qu'il y aurait Polanski, je savais qu'il serait en bonne place, sinon deuxième sur le podium, et je savais que ce serait Le Locataire. Bon, après, c'est vrai que Polanski, j'aurais pu choisir d'autres films, j'aurais pu choisir Chinatown, j'aurais pu choisir Rosemary's Baby, bon, voilà, qui sont des films que j'aime tout autant. Mais c'est vrai que Le Locataire, en plus, c'est lié aussi au fait que je l'ai vu, c'est vrai, j'ai vu adolescent, j'ai vu dans des circonstances un peu étranges. C'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup marqué pour l'atmosphère, qui continue vraiment, je trouve, à hanter un peu le cinéma de certains cinéastes d'aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, donc effectivement, mais il n'arrive pas premier, c'est vrai. C'était difficile, hein.
Ouais, je me doute. Enfin, je me doute pas, non, parce que j'ai pas eu à pratiquer cet exercice. Donc, je rappelle le titre de ton ouvrage, ouvrage signé donc Dominique Legrand, qui s'appelle Le syndrome de l'île déserte, 50 films incontournables, et qui est donc disponible aux éditions Complicité. Et on te remercie pour cet entretien.
Voilà, merci beaucoup. Je voudrais simplement ajouter que la couverture est très très belle et en fait, elle est très originale. C'est une photographie de mon fils qui est photographe. Donc voilà, ça ajoute un petit peu, ça fait un petit peu un travail familial, une entreprise familiale en fait.
Et ça ajoute au côté autobiographique du livre,
oui,
quelque part.
Tout à fait. Voilà. J'étais assez fier qu'il puisse participer à cette expérience.
Écoutez Culture Prohibée. Carlotta Film est un éditeur qui a de la suite dans les idées, parce que non seulement on nous proposait souvent de très bons films dans de très belles éditions, il nous sort régulièrement, Carlotta Film, des très bons livres sur le cinéma. Et l'un des très bons livres sur le cinéma qu'il avait sorti ces dernières années, c'était The Big Goodbye de Sam Wasson, qui, partant du tournage du Chinatown de Polanski, décrivait aussi la fin du nouvel Hollywood. Alors là, on a le nouveau livre de Sam Wasson entre les mains, qui arrive enfin et qui s'appelle « Le chemin du paradis, une épopée » de Francis Ford Coppola. Alors, en exergue, hein, le livre porte cette formule signée Dante, « Le chemin du paradis commence en enfer ». Et ensuite, le livre s'ouvre bien évidemment sur Mégalopolis, sa genèse, son financement, 100 millions de dollars quand même, sorti de sa poche, par Francis Ford Coppola, pour porter à l'écran un projet en gestation quand même depuis 40 ans. Donc là, il y a toute la mégalomanie de ce génial créateur qu'est Francis Ford Coppola. Et là, l'auteur a pu bénéficier d'un accès total en fait, aux archives personnelles de Coppola. Et il a pu construire un livre qui a une forme toujours très, très ambitieuse. Il y a beaucoup de styles hein, chez Sam Wasson. Et qui est une forme qui est en relation en fait, avec ce qu'est Coppola. C'est-à-dire que Coppola et la famille... C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui revient tout le temps dans le livre. Et il vient d'une maison où, tout petit, avec son père Carmine, qui est premier flûtiste dans un orchestre symphonique, il est en contact avec l'art constamment. C'est quelqu'un qui va vivre toute sa vie par et pour l'art, quitte à, on le sait, hein, pour Apocalypse Now, à hypothéquer ses biens, à se mettre dans des difficultés financières incroyables. On découvre aussi que, de par son père, il a un goût pour l'opéra immodéré. Et du coup, tout prend sens pour pas mal de films, enfin, y compris les accents lyriques presque, par moments, presque surréalistes qu'on peut voir, par exemple, dans un film comme Outsiders, où il y a des moments de lyrisme échevelé qui peuvent paraître tirés par les cheveux, mais qui sont tellement beaux. Enfin, voilà. En fait, ce qui ressort là du livre de Wasson, c'est que, en fait, Coppola se nourrit de ses rapports avec son entourage, sa famille, et c'est ça qui crée aussi la particularité, la singularité de son œuvre, et qui fait qu'en fait, toute sa filmographie, c'est son autobiographie. Effectivement, c'est ce qu'on peut voir, hein, Je veux dire, quand il va fonder le studio American Zoetrope. Zoetrope, c'est une utopie. Hein. C'est un studio, comment dire, énorme, qui est une réponse, en fait, à Hollywood, et dans lequel, c'est à San Francisco, c'est un studio qui est tout le temps porte ouverte, et qui fait qu'on y trouve, en fait, des acteurs qui prennent des cours de musique. On va croiser David Lynch, on va croiser même Godard, Michael Powell vont aller là-bas. Il y a des ateliers de partout, ça... mais évidemment, bon, cette utopie va lui coûter cher. Hein. Et puis, il va y avoir des échecs de pas mal de films. Parce que quand ils font de Zoetrope, ils sortent du pain. Hein. Conversation secrète, d'Apocalypse Now, enfin, tous ces films qu'on fait sa renommée. Puis après, il va avoir, bon, avec de très bons films, hein, Cotton Club, Rusty James, tout ça. Mais une vraie traversée du désert en termes financiers. Mais ce type a la folie des grandeurs. Il l'avait dès le début, hein. Et il la gardera toujours, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tous tant envie de voir Mégalopolis, qu'il soit réussi ou loupé. Je veux dire, on a tous très, très, très envie. Et puis, ne pas oublier non plus que Coppola, c'est aussi l'une des meilleures adaptations du Dracula de Bram Stoker. Hein. Donc, Coppola, cinéaste immense, auquel ce livre foisonnant, ce livre désarçonnant par instant, livre sans doute l'un des plus beaux hommages. Donc, ça s'appelle Le chemin du paradis, une épopée de Francis Ford Coppola. C'est écrit par Sam Wasson et c'est disponible chez Carlotta Film. Tout comme le très beau cadeau fait par Carlotta Film aux amoureux de l'étrange festival, qui a fêté ses 30 ans en 2024 lors d'une édition, comme d'habitude, dantesque. Carlotta nous gratifie donc d'un très bel ouvrage qui débute par une préface du grand Alejandro Jodorowsky, puis un bel édito signé Frédéric Tan, fondateur du festival, puis un historique très intelligemment construit et rédigé par l'ami Julien Cévéon, hein, qu'on salue, qui est déjà venu à plusieurs reprises dans cette émission. Et en effet, impossible de faire un résumé détaillé de 30 ans d'un festival aussi riche. Puis le livre continue comme ça, on est entre des dessins de Vincent Patard et Stéphane Aubier, de Bill Plimpton aussi. Il y a des écrits de Gaspard Noé, Dominique Moll, Marc Caro, Jacques Audiard, Noël Godin, Bertrand Mandico. Bon, j'en oublie, hein, parce qu'il y a plein de personnes qui écrivent dans ce bouquin, qui racontent leurs souvenirs du festival, des superbes photos. Les temps forts de chaque édition sont recensés. Et le spectateur peut replonger dans son souvenir, dans ses souvenirs liés au festival. Moi, je me rappelle de premières éditions où je suis allé, j'ai découvert plein de choses. Et c'est donc un petit voyage dans le temps. Et puis, c'est aussi l'occasion de se rendre compte du côté avant-gardiste de la programmation de l'étrange festival. Parce que, par exemple, en 2003, le festival avait programmé une rétrospective Eloy de la Ecclesia. Par exemple, en 96, alors que c'était très dur de trouver ce film, on pouvait y voir L'Ange Rouge de Yasuzo Mazumura. En 98, Mani dans les Griffes des Ténèbres de Lino Broca, qui aujourd'hui sont des films qui sont sortis, pour beaucoup chez Carlotta Film d'ailleurs, mais qui font la joie des éditeurs vidéo et des cinéphiles aujourd'hui. Et ça, ce sont que quelques exemples parmi des dizaines. Donc, 30 ans d'étrange festival, c'est un livre indispensable pour tous les amateurs de cinéphilie déviante, mais aussi plus globalement de culture prohibée. Parce qu'évidemment, dedans, vous allez retrouver J.J. Allin, Annie Sprinkle, et d'autres qui sont venus aussi faire des performances, parce que ça se passe sur l'écran, mais ça se passe aussi dans la salle, l'étrange festival. Et puis de plus, c'est un bel objet au format pantalon, donc c'est indispensable pour les auditrices et auditeurs de Culture Prohibée que ce livre 30 ans d'étrange festival aux éditions Carlotta Film.
Hey Michel, viens nous rejoindre, elle est bonne. Allez mon Billy. Oh, c'est une star.
Michel ?
Je suis mort.
Non, 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 vous êtes pas mort.
Ouais, on va remettre tout ça en place, ouais, avec un petit punch.
Allez-y.
Arrêtez de donner des interviews. Vous êtes un écrivain fabuleux, écrivez des livres et fermez vos gueules. Ça m'intéresse pas de savoir ce que je pense moi-même.
Puisqu'on est dans les films, hein, Carlotta Film, oh, la transition est un peu maladroite, je vous l'accorde. Je vais vous parler de Dans la peau de Blanche Welbeck. Dans la peau de Blanche Welbeck, qui est sorti donc chez Blackout, qui est un des derniers films de Guillaume Niclou, hein, qui avait fait juste avant La Tour, quand même, un film ultra sombre et ultra déprimant, peut-être pas si loin d'ailleurs, peut-être Welbeckien un peu dans son côté nihiliste sur la nature humaine, et qui est là une pure comédie, puisqu'on est dans la suite de la trilogie Welbeck, qui avait démarré par L'Enlèvement de Michel Welbeck et Thalasso, où il y avait Depardieu et Welbeck ensemble. Thalasso, moi, j'étais mort de rire. En fait, Ce qui est étonnant avec Guillaume Niclou, qui est aussi un formidable auteur de polars, hein, La Clé par exemple, Une affaire privée, qui sont des super polars bien glauques. Guillaume Niclou, il a un univers multifacette. Et là, il fait de la comédie en jouant sur quand même quelque chose qui était gonflé, sur le côté comique en fait, ridicule et comique de Michel Houellebecq. Il l'utilise comme si c'était une sorte de Charlie Chaplin ridicule, quoi. C'est très étonnant. Et là, bah, c'est simple, qu'est-ce qui se passe? Michel Houellebecq est invité en Guadeloupe. Il y a un concours de sosie à son image qui est présidé par Blanche Gardin. Donc, ils se retrouvent tous les deux à y aller. Blanche Gardin n'arrête pas de prendre des psychotropes. Elle le fait fumer. Il est complètement défoncé. Lui, ses potes de l'enlèvement se pointe et bien sûr se retrouve mêlé à des affaires de meurtre et tout ça, hyper sordide. Et il se retrouve coincé, menotté l'un à l'autre. C'est une thématique très hitchcockienne. Voilà. Et pendant ce temps-là, le concours de totalement ingérable de sosie de Michel Houellebecq se déroule. Moi, j'adore, c'est hilarant, j'adore ça. Je sais qu'on n'est pas obligé de partager mon enthousiasme, hein, parce que certains vont dire que ça permet de. Peut-être un peu de légitimer Houellebecq, mais je pense que c'est. Enfin, je ne sais pas s'il faut prendre tout cela très au sérieux, franchement, parce que c'est quand même vraiment très très drôle, c'est complètement improbable, hein, quand même. Hein. Et certains parlent de MCU, de Michel Houellebecq Comatic Universe. J'adore cette. Je ne sais pas quelle critique a inventé ce terme, mais je trouve ça très très drôle. Je l'ai lu, ça m'a fait mourir de rire, je l'ai noté tout de suite. Donc, si vous voulez voir. Dans leur propre rôle, Gaspard Noé qui envisage de refaire un porno avec Jean-Pascal Zadi qui essaye de se placer comme acteur porno. Et puis d'autres moments comme ça dans le film, parce que là, j'ai pas le temps de tout vous décrire. Vous allez bien vous marrer. Et puis quand même, il y a un chevalier des arts des lettres qui joue dans le film comme ça. Je vous le dis comme ça, si vous voulez voir le grand chevalier des arts des lettres qui est Francky Vincent dans l'un de ses meilleurs rôles au cinéma, je vous conseille de voir ce film. Hautement improbable. Voilà, ça s'appelle Dans la peau de Blanche Houellebecq et c'est sorti chez Blackout. Alors pour terminer cette émission, on va échanger avec Yael Sada. Alors Yael Sada, on est très content de l'avoir dans l'émission parce qu'on avait adoré son bouquin sur le Vigilante qui malheureusement est épuisé. Et là, il participe à un ouvrage collectif en compagnie de Julien Abadi, Nicolas Télope, Antoine Moquet, Arthur Louis Saint-Galt, Aurélien Le Mans et Steven Lambert qui chapeautent tout cela, qui dirige l'ouvrage, qui s'appelle John McTiernan Cinéma Total, qui est un retour donc sur le travail de John McTiernan à un moment où John McTiernan est blacklisté, hein, à Hollywood, là où il ne travaille plus. Hein. On va revenir sur tout ça de toute façon dans l'entretien. C'est un livre qui inaugure une nouvelle collection, La Forge. C'est disponible chez le Feu Sacré Édition. Et franchement, la parution a été un tout petit peu retardée. Il y a une superbe couverture qui est signée de l'auteur de BD Jaouin Salone. Et franchement, c'est déjà un indispensable parce qu'il n'y a quasiment pas de littérature sur McTiernan. À ma connaissance, je pense même que c'est le seul livre qui aborde très sérieusement le travail de John McTiernan, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Car John McTiernan n'est pas qu'un faiseur de films d'action. Et c'est ce dont on va discuter immédiatement avec Yael Sada. Donc Yael Sada au micro de Culture Prohibée. Pour vous, Yael Sada, comment s'effectue la rencontre avec le cinéma de John McTiernan ?
Moi, à titre personnel, c'est assez banal. Hein. C'est-à-dire que c'est dans l'époque où McTiernan est encore en place. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui est déjà l'auteur de Pièges de cristal, d'Une journée en enfer, d'Octobre rouge, de Predator, évidemment, et qui fait encore des films. C'est-à-dire que je crois que le passage télé de Pièges de cristal, celui que j'ai découvert, c'était avant que Le 13e guerrier ne sorte. Donc quelque part dans les années 90, et voilà, j'ai le souvenir quand même de pouvoir à la fois voir les Die Hard qui étaient ses films les plus connus pour les gens de ma génération, c'est-à-dire enfants, jeunes ados, évidemment autour de la figure de Bruce Willis, John McClane, c'était ce qu'on retenait, puis il y avait évidemment le jeu vidéo Die Hard Trilogy, et puis le fait de pouvoir ensuite aller voir Le 13e guerrier qui était un film qui avait rien à voir et tout à voir en même temps. Et par ailleurs, via la mythologie Tom Clancy, à laquelle j'étais aussi sensible, découvrir Octobre Rouge et voir en fait la palette de son cinéma qui était extrêmement large. C'est-à-dire qu'une fois qu'on disait que c'était un cinéaste d'action, on avait rien dit. C'est-à-dire que c'était un cinéaste d'action, oui, mais avec une espèce déjà d'approche extrêmement singulière de ce que c'est qu'une épopée de blockbuster. On s'en rendait pas forcément compte à l'époque, on n'avait pas forcément la distance pour se rendre compte que c'était pas n'importe quel cinéaste de blockbuster. Et en plus, voilà, qu'il y avait un panel très très large, très diversifié en fait de régimes d'action, j'allais dire. Voilà.
D'ailleurs, oui, on dit toujours que McTiernan est reconnu, vous le disiez à l'instant, pour être un maître du cinéma d'action. Mais en fait, surtout, ce qui est assez rare, et c'est là qu'on voit que ce n'est pas uniquement quelqu'un qui filme très bien l'action, ce qui fait la particularité, en tout cas pour moi, de McTiernan, c'est qu'il arrive à nourrir de fortes dramaturgies via le dialogue, on va y revenir après, évidemment, par rapport à ce que vous avez écrit dans le livre, mais via le dialogue, dans de nombreuses scènes d'action. On peut penser aux échanges de John McClane là, à la fin de Piège de cristal. Et en fait, il y a très peu de réalisateurs de blockbusters et de films d'action qui sont capables de faire ça. On a vu un peu Sam Raimi le faire dans Spider-Man 2. McTiernan a vraiment cette particularité de continuer. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de l'action. C'est une action et en même temps, dramatiquement, il se passe des choses pendant l'action. Et ça, c'est assez unique quand même.
Oui, bah, c'est-à-dire que c'est une forme d'écriture sous forme d'action, c'est-à-dire tout passe par, pour le dire vite, par l'action visuelle, c'est-à-dire on a presque une forme de chorégraphie, de manière comme ça de tout raconter par le mouvement, par l'épique, mais effectivement l'épopée ou l'épique n'est jamais une déclaration d'intention, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui dit je vais faire ça. On est emmené par le film par un mouvement qui est beaucoup plus visuel, sensoriel aussi. Je pense que c'est pas un cliché de dire que c'est un cinéaste qui renoue avec le cinéma, avec les origines du cinéma, quoi. C'est-à-dire avec le muet. Avec le burlesque. De toute façon, on sait que le burlesque muet, à l'époque de Keaton, évidemment, par exemple, hein, proverbialement, le mécano de la générale, a un rapport avec le cinéma d'action. Que entre les deux, il y a un peu le cartoon qui pourrait annoncer, si on pense vraiment aux années des années, presque du milieu du siècle, du XXe siècle, ça annonce, avec toutes ces courses-poursuites entre toons, entre personnages. Voilà, burlesque, chatoyant ou en couleur, à travers des structures urbaines, on réinvente complètement la ville, on peut réinventer complètement le squelette la structure d'un immeuble en construction, ça Bugs Bunny l'a fait des tas de fois, pour arriver à une dimension complètement spectaculaire en fait, la cascade, ça c'est ce que le cinéma d'action a fait dans les années, à partir des années 70-80, en fait, quand il a pu vraiment s'affranchir des studios faire de l'action, tourner de l'action en dehors des studios. Et McTiernan est une des personnes qui l'a fait, à mon avis, le plus, avec le plus de bonheur, quoi. Donc voilà, ça c'est effectivement une spécificité. Il n'est pas le seul, je pense, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ils sont assez rares. Lui, par moment, James Cameron, enfin voilà, ou Tony Scott, on a pu aussi le comparer. Mais c'est vrai qu'il a cette habileté-là, ouais.
Et vous l'aviez dit à l'instant, hein, Yael Sadas, un cinéaste que l'on définit souvent comme visuel. Hein, et pourtant, vous choisissez de l'aborder via justement le langage. Alors, pourquoi, en plus, le langage de l'étranger, il y a des questions de compréhension aussi de langue, on va y revenir après, mais pourquoi ce choix de l'aborder via le langage? Parce que le premier truc qui viendra à l'esprit, quelqu'un qui veut écrire sur McTiernan, ce serait de dire on va prendre telle scène d'action, ou tel moment marquant dans tel film, mais non, vous choisissez le langage, pourquoi?
En fait, pour deux raisons. Le langage est intéressant à deux titres, c'est que d'abord, c'est pour un peu rappeler ce qu'on disait, c'est-à-dire le cinéma de McTiernan se passe d'un langage, cherche à faire en sorte de pouvoir s'affranchir du langage parlé et invente une écriture visuelle, quoi, une dramaturgie visuelle qui reconnecte au cinéma muet, qui a cette espèce d'évidence, en fait. Je ne sais pas si c'est une évidence, mais en tout cas, l'action gouverne. Et de la même manière que McTiernan, en tant que cinéphile, cite par exemple l'introduction de La Luna de Bertolucci, où il va vous dire que tout passe par des gestes, des effets d'accélération, des effets de lumière. Je pense que lui écrit comme ça. Et j'ai voulu montrer dans le texte qu'il y avait une manière, il y avait une foi, une grande croyance dans la possibilité de faire comprendre tout au spectateur à travers un langage qui est muet. Et j'ai voulu aussi, à travers cette première idée, en encapsuler une deuxième théorie, entre guillemets, c'est que si le cinéma de McTiernan se passe du langage parlé, c'est aussi parce que le verbe porte la notion d'ennemi, et c'est un cinéma qui politiquement, philosophiquement, ça c'est à mon avis assez important, veut mettre à mal la notion d'ennemi. En tout cas, la notion d'ennemi, tel qu'on l'entend en géostratégie, en géopolitique. L'ennemi absolu, comme on se souvient de l'empire du mal, c'est l'expression sous Reagan pour désigner le bloc soviétique. On voit à quel point quelqu'un comme McTiernan, dont le cinéma s'est développé en pleine guerre froide et qui emporte les traces, soit de manière directement, narrativement, dans Octobre Rouge, soit de manière symbolique dans ses autres films qui touchent à la guerre, à l'épique et tout ça. On voit à quel point il veut sortir de cet aspect dichotomique des choses, cette dimension, l'ennemi absolu, l'ennemi, l'autre avec un grand A, le grand autre qui est absolument à combattre, absolument à abattre, à éradiquer. On voit que de Piège de cristal où le méchant est un leurre, c'est-à-dire que le terrorisme n'est pas l'enjeu du film, c'est une simple affaire de cambriolage quand on y pense, hein. Un film de caper movie, film de braquage en fait, un peu fantasque comme ça, il y a presque une dimension comique chez ces personnages qui se font passer pour des terroristes et qui ne sont que des voleurs. Donc ça c'est une manière de mettre à mal l'espèce de phobie, l'obsession sécuritaire des États-Unis pour le grand méchant terroriste.
Vous écoutez Yal Sada, co-auteur de John McTiernan Cinéma Total, paru chez le Feu Sacré Édition au micro de Culture Prohibée.
Predator, finalement, c'est a priori le grand autre, encore une fois, l'autre avec un grand A, et en même temps, on apprend presque à danser avec lui, à s'aboucher avec lui. En fait, c'est deux guerriers qui se rencontrent finalement et qui ont beaucoup en commun. Il y a comme ça une manière toujours de placer l'heure jusqu'au 13e guerrier aussi. Voilà, il y a des subterfuges. La notion de mal et d'ennemi, en tout cas telle qu'on l'entend politiquement, n'est qu'un subterfuge. Et donc derrière ça, il y a une vision en fait de pacifiste, même si ce serait un peu simpliste de dire que McTiernan ne pense pas lui-même avoir d'ennemis en tant que personne. Ça, c'est au niveau biographique, on sait que c'est quelqu'un qui est assez remonté contre le gouvernement américain et qui pense avoir beaucoup d'ennemis. La paranoïa n'est pas étrangère ni à sa personne, à mon avis, ni à son cinéma. Il y a des personnages, parfois on entre dans leur paranoïa aussi. Mais enfin, je veux dire, on sort d'une vision dichotomique et, comme on pourrait dire, manichéenne, en fait, de l'échiquier géostratégique. Je parlais de subterfuge, justement, et ça va aussi avec la notion de cinéma hitchcockien, enfin de l'héritage d'Hitchcock au cinéma, c'est qu'il y a un subterfuge, l'ennemi n'en est jamais vraiment un, donc il met à mal cette notion-là, et la ruse de l'ennemi, le subterfuge, il est langagier, c'est toujours dans le langage, dans la manière de parler une autre langue pour faire mine en fait d'être l'étranger absolu, donc l'homme à abattre. En vérité, chez lui, les langues sont toujours poreuses, quoi. Les frontières sont poreuses entre les langues. On voit que dans deux films, Octobre Rouge et dans Le 13e Guerrier, il y a la même technique, la même astuce, c'est-à-dire on cadre de très près les bouches d'un personnage qui parle une autre langue que l'anglais, puis presque miraculeusement, le personnage se met à parler anglais, anglais américain. Et c'est comme s'il y avait comme ça une espèce de transgression, de franchissement par l'image des barrières de la langue. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui tient non seulement au pacifisme de McTy, mais aussi à quelque chose d'Hitchcockien, en effet, qui est un espèce de jeu ludique, une foi dans la possibilité de s'amuser avec les images, qu'en fin de compte, on peut tout faire accepter aux spectateurs, avec une valeur de cadre, avec un mouvement d'appareil, avec quelque chose de très simple qui sur le papier paraît justement un peu simpliste, voire trop gros pour que ça passe, mais en réalité ça fonctionne. Et s'il y a quelque chose d'Hitchcockien, je dirais que c'est ça véritablement. Hitchcock a fait ça des tas de fois, que ce soit sous forme de métaphore dont on est ou de d'effet de sens dont on est à peine conscient. Hitchcock, je sais pas, c'est, les exemples sont innombrables, mais enfin, effectivement, il me semble qu'il a souvent cité Hitchcock d'ailleurs dans ses entretiens, donc c'est pas du tout un rapprochement indu ou faux. Voilà.
Et puis il y a aussi autre chose aussi, quand vous partez, vous étudiez via le langage le cinéma de McTiernan, et vous partez de Nomades, qui n'est pas forcément son film le plus connu, son premier long, bon, qu'on avait découvert nous à l'époque, qui avait marqué, hein, il avait été dans Mad Movies, il avait marqué à l'époque les critiques qui y travaillaient, il est ressorti récemment d'ailleurs, hein, Nomades en format physique. Vous le choisissez aussi parce que je pense, hein, il me semble bien que c'est le seul film, je pense, qu'il a écrit intégralement. Donc ça, oui. ça joue aussi quand même, ça, dans votre choix.
Oui, oui, c'est vrai. Alors même si là, il travaillerait actuellement sur des scénarios originaux écrits par lui, qui viendraient de lui, d'idées personnelles, c'est vrai que c'est à ce jour le seul film qui est entièrement de son fait, écrit par lui, par sa plume. Et voilà, donc il y avait l'envie de commencer tout simplement par le commencement, puisque c'est son premier long métrage, et qu'on a l'impression qu'il y a déjà tout dedans en germe, peut-être sous forme de brouillon. Il y a quelque chose d'un peu, d'un tout petit peu peut-être daté ou ingrat dans même pas la facture, mais la structure du film, qui a l'air assez héritier de ce qui se faisait au début des années 80. Je trouve qu'on pense un peu au Guerrier de Walter Hill, mais déplacé sur la côte ouest et à Los Angeles. Et puis il y a aussi, moi, c'est un film qui me fait penser aussi à ce que faisaient les Australiens, toute l'exploitation et les réflexions sur les déplacements de population, le fait qu'une contrée en fait a été dénaturée par les gens qui ont mis les pieds là. Donc c'était ça marchait pour l'outback australien, et là les mouvements de population. L'idée qu'en fait l'Amérique ce ne sont que des nomades en fait qui préemptent des territoires, des déserts qui transforment vaille que vaille en fait en ville, et qui en font des enfers, qui rendent les gens fous. C'est un film qui vient effectivement des ambitions anthropologiques de McTiernan, qui a littéralement étudié l'anthropologie, qui se rêvait scientifique, chercheur, anthropologue, et qui n'a jamais renoncé, en fait. Tout ce que je disais avant sur la géopolitique, c'est aussi une notion anthropologique, l'ennemi, le méchant. Donc, plutôt que quelqu'un qui réfléchit, d'ailleurs, en observateur de la politique étrangère américaine, c'est plutôt quelqu'un qui réfléchit en ethnologue et anthropologue. Et ça, c'est ce que je disais sur les mouvements de population, sur... l'idée presque monstrueuse en fait de transformer un désert en ville, comme c'est le cas de Los Angeles, ça c'est dans Nomades, et c'est pour ça que je dis que c'est plus qu'une matrice, c'est un brouillon, mais un brouillon un peu magique quand même, voilà.
Oui, alors après... Alors, pour conclure, hein, cet entretien, Yael Sada, vous qui êtes donc co-auteur de John McTiernan, Cinéma Total, paru aux éditions Le Feu Sacré, j'ai envie de vous poser la question, McTiernan, aujourd'hui, que reste-t-il de John... Pas son cinéma, hein, qui a marqué évidemment les esprits, mais John McTiernan, aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est passé quand même, on le disait tout à l'heure en introduction, mais il est passé de... C'était une superstar, des réalisateurs en tout cas, et puis aujourd'hui, bon, c'est un paria, il avait fait espionner ses producteurs au moment du remake de Rollerball, et puis il a fait un parjure au niveau d'un témoignage, ce qui lui a coûté de la prison, et qui fait qu'aujourd'hui c'est un vrai paria, enfin, il travaille plus, c'est quand même terrible pour le cinéma ça.
Oui, c'est terrible. Alors, il essaye de se remettre au travail, visiblement, puisque il travaillerait sur plusieurs scénarios, je crois trois. Voilà, c'est de son propre aveu. Moi, j'ai pu l'interviewer depuis que le livre a été écrit, mais un peu de temps avant sa publication. Et c'est ce qu'il disait. Voilà, trois scripts qui seraient en route, mais effectivement, on voit bien qu'il a du mal à se remettre. Au cœur de la machine, quoi. Il a du mal à reprendre les commandes. Je pense que c'est effectivement dû à ce qui s'est passé, c'est-à-dire son emprisonnement, voilà, 2012-2013, par là, où il est jugé, il fait un an de prison, il ressort, il est un héros pour sa fanbase, surtout en France, où le mouvement Free John McTiernan s'était créé, enfin voilà, il a été soutenu, mais il n'a pas vraiment été soutenu, même pas du tout. Il a été complètement poussé, même presque dans les orties, par le système, par l'industrie hollywoodienne. De toute façon, il en faut moins que ça pour être abandonné, pour être délaissé à Hollywood, hein, parce que c'est un insuccès commercial peut justifier le fait que vous soyez grillé à vie. Donc là, voilà, on voit bien comment lui, c'est devenu un paria. Mais je pense qu'au-delà de ces démêlés judiciaires, il y a aussi quelque chose de presque d'autodestructeur chez lui, pas suicidaire, mais en tout cas une forme d'intégrité extrême, de colère qu'il a depuis, à mon avis, longtemps, qui est d'ordre à la fois politique, moral, enfin, c'est quand même quelqu'un qui est très, très remonté contre l'establishment, la classe dominante, l'establishment politique WASP aux États-Unis, en tant que qu'héritier des catholiques irlandais, c'est quelqu'un qui se vit comme le dignitaire d'une minorité aux États-Unis. Après, ça se discute, hein, mais voilà, bien que blanc, il se vit comme faisant partie d'une minorité opprimée par la majorité WASP. Et il y a ça, il y a aussi ses rancœurs envers l'aristocratie hollywoodienne. Les financiers qui sont aux commandes, et je pense que il met un point d'honneur à leur tenir tête esthétiquement aussi. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est quand je parle d'intégrité, c'est, je veux dire par là, il refuse de s'abaisser entre guillemets à tourner des scripts qu'on lui propose qui ne lui conviennent pas parce qu'il les trouve soit trop mauvais, trop il parle beaucoup, voilà, de scripts surécrits ou alors qui font l'apologie de la puissance militaire actuelle américaine. Ça n'intéresse pas de raconter des histoires de commando, quoi. Il le dit, il en reçoit depuis les années 80, ça n'a pas changé. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir lui confier un film qui deviendra un DTV, si vous voulez, d'action. Et en fait, ça n'intéresse pas. Il a une plus haute idée du... que ce soit du thriller politique, judiciaire. Il essaie de travailler sur des sujets un peu comme ça actuellement, visiblement. Et il n'a pas du tout envie d'arrondir les angles de ses visions esthétiquement. Donc c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il reste dans l'ombre aujourd'hui.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, et pour le coup de main technique de Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. and the last but not the least à l'architecture sonore de l'ensemble. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.